20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. De la guitare ce soir dans le journal du classique, la guitare de Philippe Mouratoglou. Dans son nouvel album, il nous emmène en voyage en Italie et il sera à cette occasion à notre micro ce soir. Nous partirons ensuite pour un autre voyage en Espagne avec notre voyageuse du jeudi, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Alexander Neff vient d'être reconduit au poste de directeur général de l'Opéra de Paris. Nommé en 2020, en pleine crise sanitaire, pour un premier mandat de 6 ans, il officiera donc 6 années supplémentaires jusqu'en 2032, avec comme ambition, nous dit-on, de poursuivre et amplifier l'ensemble des actions transformatrices qu'il a engagées, dont le chantier important de la rénovation technique et scénique des 2 théâtres, à savoir le Palais Garnier et l'Opéra Bastille. Philippe Gault revient sur son parcours à la tête de l'institution lyrique parisienne dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Académie musicale Philippe Jaroussky recrute la prochaine promotion du programme Jeunes Apprentis pour la rentrée 2024-2025. Un programme qui vise à favoriser l'accès à la musique classique pour des jeunes en situation d'éloignement culturel. Alors le dépôt de candidature se fera en ligne sur le site de l'Académie Jaroussky où vous trouverez tous les détails de cette formation. Un grand rendez-vous de piano demain soir à la Philharmonie de Paris. András Schiff jouera Mozart, Schumann, Mendelssohn et Beethoven. Un programme riche, dense, profond comme il sait les concevoir. Et un programme qui sera tout naturellement ponctué de pages de Jean-Sébastien Bach, son grand compagnon de vie. Quelques notes de la première partita pour clavier de Bach par András Schiff. András Schiff qui sera donc en récital demain soir à la Philharmonie de Paris.
Laure Maison sur Radio Classique.
La Bellezza, tel est le titre du nouvel album du guitariste Philippe Mouratoglou, conçu comme un voyage en Italie et dans le temps à travers 5 siècles de musique, de celle des luthistes du début du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Un album dans lequel nous allons nous plonger ce soir avec Philippe Mouratoglou qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi avoir choisi d'explorer le répertoire italien? J'imagine que ça, c'est la première question qu'on vous pose à chaque fois, puisqu'on associe la guitare à l'Espagne. Pourquoi avoir eu envie de nous emmener en Italie?
Alors la genèse de ce disque est un petit peu, non pas compliqué, mais ça a été assez long, parce qu'au départ, ça devait être un disque consacré au compositeur Giulio Regondi.
Qui est un compositeur italien.
Italien du 19e siècle, dont finalement une seule pièce subsiste dans ce disque. Mais au fur et à mesure, le projet a évolué et j'ai eu envie d'avoir une plus grande diversité de styles, d'où l'idée de garder le thème de l'Italie, mais en explorant un spectre plus vaste de compositeurs.
Oui, puisqu'on va d'un style à l'autre, d'un siècle à l'autre. C'est un programme très contrasté, mais que vous avez enregistré sur un même instrument, une même guitare, une guitare moderne. Le fait de jouer ce programme sur un même instrument, ça permet de créer une forme d'unité aussi.
Oui, c'est certainement. Moi, en tout cas, c'est ma démarche qui est de non pas essayer de jouer sur les instruments forcément d'époque, mais de faire ce type d'enregistrement avec le même instrument, tout en cherchant pour chaque pièce le son qui, pour moi, est adéquat. Par exemple, on ne joue pas du tout de la même manière de la musique pour luth, comme celle de Francesco da Milano, ou une pièce écrite au XXe siècle pour la guitare moderne.
Alors justement, puisqu'on va commencer avec le luth dans l'ordre chronologique, est-ce que c'est un instrument qui s'adapte bien à la guitare? Est-ce que les pièces écrites pour luth, vous les jouez de façon évidente à la guitare?
Alors c'est pas si évident que ça, parce que ce sont deux instruments à cordes pincées, le luth et la guitare, mais c'est à peu près le seul point commun que ces deux instruments ont, parce que en réalité, en termes de sonorité, c'est très différent. En particulier parce que le luth a des cordes doubles. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle de résonance par sympathie, des harmoniques qui apparaissent, ce qui existe aussi dans la guitare, mais quand même nettement moins. Il faut adapter. Et d'autre part, le luth a également des cordes doublées à l'octave. Donc quand on joue cette musique sur luth, il y a des octaves qui apparaissent que l'on perd mécaniquement quand on joue les mêmes notes au même endroit du manche sur la guitare. Donc il y a vraiment un travail d'adaptation.
Puis le luth, c'est un instrument qui est lié à une notion de l'intime. Est-ce que l'on cherche justement un jeu particulièrement intime?
On cherche en tout cas à ne surtout pas étouffer toutes les résonances naturelles de l'instrument. Et pour moi, ça implique une attaque quand même plus douce que quand on joue des pièces plus modernes, justement pour laisser ces résonances s'exprimer. Et non pas chercher à imiter le luth, mais en tout cas ne pas en trahir l'esprit.
Un Recherkar de Francesco da Milano, joué à la guitare par Philippe Mouratoglou, notre invité ce soir sur Radio Classique, un extrait de ce bel album intitulé justement La Bellezza. Alors on apprend dans le livret passionnant qui accompagne cet enregistrement que Francesco da Milano était un grand luthiste du XVIe siècle, un tel génie qu'on le considérait comme l'équivalent d'un Michel-Ange musicien et qu'on le surnommait même il Divino. Il a beaucoup écrit pour le luth avec un art qui cherchait visiblement moins à éblouir qu'à émouvoir. Il y a justement dans sa musique ce côté très intime que l'on évoquait tout à l'heure.
Oui, un côté intime, et puis c'est vraiment la quintessence de la polyphonie, bon, qui au départ est évidemment un art vocal, mais qui est parfaitement adapté sur le luth, qui a priori est un instrument très intime, mais quand on rentre dans cette musique, on est plongé au milieu d'une multitude de voix qui se côtoient, qui se répondent, et c'est des cathédrales sonores en réalité.
Et comment avez-vous choisi Serré Tchercar? Parce que visiblement, il a beaucoup écrit. Ces pièces, elles étaient publiées à l'époque?
Ah oui, elles ont été publiées à l'époque, bien sûr. Il a été publié de son vivant. Il a connu la gloire de son vivant, Da Milano d'ailleurs, puisque c'était certainement un des grands compositeurs de son époque. Et je les ai choisis tout simplement en lisant énormément, et j'ai choisi celle qui me parlait le plus directement.
Voilà, et qui ponctue cet album. On commence avec un Tchercar, on termine avec un Tchercar. Il y en a plusieurs au milieu qui s'intercalent entre des pièces de différentes époques. Et on passe directement de Francesco Da Milano au 19e siècle avec ce compositeur Giulio Regondi. Vous avez sauter toute la période 18e, celle de Vivaldi en Italie.
Oui, ben j'ai sauté la période où la guitare telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore, puisqu'elle existe depuis le début du 19e siècle.
Oui. Donc il y avait les mandolines à l'époque avec Vivaldi.
Oui, tout à fait. Qu'on peut jouer certaines de ses pièces à la guitare, mais souvent quand même accompagné d'un orchestre, au moins d'un orchestre à cordes. C'est pas vraiment de la musique qu'on joue à la guitare seule. Donc effectivement, j'arrive à l'invention de la guitare telle qu'on la connaît, même si à l'époque c'était encore la guitare romantique, qui est encore un instrument un petit peu différent de la guitare moderne, avec donc Giulio Regondi, qui est un des grands compositeurs romantiques pour guitare vraiment, on est au milieu du 19e siècle.
C'est à ce moment-là que la guitare arrive en Italie?
En fait, la guitare moderne naît au début du 19e avec des compositeurs italiens comme Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, ou encore Ferdinando Carulli. Donc la guitare existe déjà, mais c'est un répertoire bien différent, souvent très virtuose, beaucoup d'adaptations d'airs d'opéra, une musique où il y a des très belles choses, mais aussi beaucoup de virtuosité, à mon sens, un peu gratuite.
Mais il y en a de la virtuosité dans la musique de Regondi. Il était considéré comme un grand virtuose de la guitare à l'époque. Son écriture est aussi assez virtuose.
Alors c'est une écriture qui est très très virtuose, qui est surtout très très dense. Parfois on croirait entendre un piano tellement l'harmonie est fournie, ce qui est quand même assez rare à la guitare. Moi je le compare un petit peu à Franz Liszt, un peu ce type d'écriture très dense et extrêmement virtuose, mais par contre toujours absolument musicale. C'est-à-dire c'est pas de la virtuosité gratuite du tout là en l'espèce.
Alors comment se développe au 19e siècle la guitare en Italie? Est-ce que les guitaristes ou les pièces pour guitare écrites en Italie sont différents des guitariste espagnol, par exemple? Est-ce qu'il y a un style italien pour la guitare dès le 19e?
Est-ce qu'il y a un style italien? Le style italien, c'est celui dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire c'est un style très brillant qu'on trouve, encore une fois, chez tous les guitaristes italiens présents à Paris au début du 19e, qui ont d'ailleurs écrit énormément d'ouvrages didactiques et d'études. Giuliani, qui a écrit énormément de variations sur les thèmes d'opéra, des variations très virtuoses, donc c'est un style assez brillant, qui peut être parfois proche du bel canto. Alors, un peu plus tard, chez Regondi, ça devient une évidence, cette influence du bel canto.
Alors c'est un Espagnol, le guitariste Andrés Segovia, qui fera considérablement évoluer le répertoire de la guitare au XXe siècle jusqu'en Italie, puisqu'il inspirera notamment Mario Castelnuovo Tedesco, un compositeur qui figure au programme de votre album, Philippe Mouratoglou. Mario Castelnuovo Tedesco, qui lui n'était pas guitariste, comment s'est-il laissé convaincre d'écrire pour la guitare?
Alors, il s'est convaincu par Andrés Segovia, qui à l'époque était une grande star. Donc, j'imagine que ça a dû aider la démarche. Mais Segovia avait cette démarche d'aller demander à de nombreux compositeurs d'écrire pour guitare. Donc, Tedesco, malgré le fait qu'il ne soit pas guitariste, a beaucoup écrit pour guitare, en dehors de cette sonate présente dans le disque. Et c'est manifestement quelqu'un qui aimait beaucoup la guitare, parce qu'il a écrit pour guitare et chœur. Il a écrit, et ça, c'est pas des commandes de Segovia, c'était de son propre chef. Il a même écrit une transcription de la pavane pour une infante défunte de Ravel. Enfin, on sent qu'il avait un rapport à la guitare quand même assez intime, Tedesco.
Donc il maîtrisait bien l'écriture pour l'instrument, cela sonne bien sous les doigts, la musique de Tedesco.
Oui, ça sonne bien, notamment parce qu'il collaborait quand même avec des guitaristes, notamment avec Segovia. Donc, quand on voit le manuscrit d'origine, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à réaliser. On voit que Segovia a fait pas mal d'aménagements pour que la pièce soit réalisable.
Et cette sonate que vous avez enregistrée, sonate en hommage à Boccherini, c'est l'une des œuvres majeures du répertoire pour la guitare de Castelnuovo Tedesco.
Alors, dans le répertoire de Tedesco, c'est une œuvre majeure. Il y en a d'autres, hein, mais c'est probablement celle qui est le plus jouée. Elle a une place à part aussi parce que c'est une époque où il y a peu d'œuvres de cette envergure pour guitare. C'est une époque où la mode est plutôt à écrire pour guitare des pièces de caractère assez brèves ou des sonatines. Là, c'est une grande sonate qui peut se comparer, non pas dans le style, mais dans les dimensions aux sonates de Beethoven ou des choses comme ça. Et c'est assez rare à l'époque. On a redécouvert ensuite la sonate de Antonio José, à peu près de la même période, qui est un chef-d'œuvre également, mais c'est assez rare à cette époque-là des œuvres de ces dimensions.
Thank you. Un extrait de la sonate en hommage à Boccherini, sonate de Mario Castelnuovo Tedesco, qui figure donc au programme de cet album intitulé La Bellezza du guitariste Philippe Mouratoglou, qui est avec nous ce soir sur Radio Classique. Tedesco, qui a enrichi le répertoire pour la guitare au XXe siècle. On passe également au XXIe siècle dans votre album avec la musique d'aujourd'hui. Est-ce que la guitare aujourd'hui inspire encore les compositeurs, notamment en Italie, puisqu'on voyage en Italie avec vous ce soir?
Alors dernièrement, je peux pas vous répondre. Bon, il y a des très grands compositeurs italiens, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont été écrits pour guitare. Il y a Luciano Berio qui a écrit une sequenza, Goffredo Petrassi également qui a écrit une pièce pour guitare et clavecin. Et puis il y en a bien d'autres. Je les ai pas tous en tête, mais la guitare a beaucoup inspiré les compositeurs du XXe siècle, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle.
Et comment le jeu sur la guitare évolue avec la musique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cherchent ces compositeurs? Comment arrivent-ils à faire sortir d'autres sonorités, d'autres expressions à la guitare?
Alors ça, c'est une question très, très vaste, mais il y a ce qu'on appelle toute une série de nouveaux modes de jeu qui apparaissent. Dans le cas qui nous intéresse, à savoir la pièce de Nuccio D'Angelo présente dans ce disque, il utilise quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, mais il le modernise. C'est ce qu'on appelle une scordatura, c'est-à-dire c'est une manière différente d'accorder la guitare. Les scordatura classiques qu'on entend chez Tárrega ou chez Barrios sont souvent des scordatura en ré ou en sol. D'Angelo est plus radical puisqu'il abaisse la sixième et la deuxième corde d'un demi-ton, ce qui donne une couleur à la guitare totalement inédite, et construit toute sa pièce là-dessus et il l'écrit comme une longue improvisation.
Et c'est pas troublant quand on joue sur une guitare accordée différemment?
C'est
pour
troublant.
Pour l'interprète, je parle.
C'est très troublant, mais d'une manière que moi, personnellement, je trouve très agréable. Parce que c'est une manière de se perdre momentanément. On découvre vraiment de nouveaux paysages sonores sur cette guitare qui, a priori, est immuable. Et cette technique de scordatura ouvre des horizons vraiment, vraiment nouveaux.
Voilà, Nuccio D'Angelo, l'un des compositeurs présents au programme de cet album, La Bellezza, un programme que vous donnerez en concert le 9 mars à Paris, à la Piccola Scala. Piccola Scala, une petite salle, donc, c'est l'endroit idéal pour ce programme, pour la guitare.
La guitare se prête quand même mieux aux petites salles, parce que alors j'aime pas le mot intimiste, donc je vais pas dire que c'est un instrument intimiste, mais disons que c'est un instrument qui a moins de puissance sonore qu'un piano, par exemple. Et on peut toujours amplifier la guitare. Maintenant, il y a des systèmes qui marchent très bien, mais le son acoustique reste quand même le plus beau pour profiter au maximum de tout cet univers de résonance qui est très très propre à la guitare classique.
Mais il vous arrive de jouer dans des grandes salles où vous devez adapter, j'imagine, votre jeu, votre projection, sans forcément avoir une sonorisation?
Oui, bien sûr, ça m'arrive, sonorisé ou pas sonorisé. Dès lors qu'on joue avec un orchestre, de toute façon, c'est une autre manière de jouer, forcément. Ouais. Donc, bien sûr, ça arrive très souvent.
Voilà. Puis, en tout cas, on apprécie différentes manières de jouer dans cet album, puisque vous parcourez les siècles, les époques, les styles, les couleurs, avec votre instrument, votre guitare, Philippe Mouratoglou. Un mot sur l'univers visuel, très bel univers visuel qui accompagne cet enregistrement qui vient de paraître. Ce sont des aquarelles d'Emmanuel Guibert, c'est ça?
Oui, alors j'ai la chance sur le label que j'ai créé avec deux amis, Vision Fugitive, d'avoir des pochettes dessinées par ce grand dessinateur qui est Emmanuel Guibert et qui parfois participe également au livret, comme c'est le cas ici. Emmanuel a fait un très beau livre sur l'Italie, où en fait ce sont des croquis qu'il a réalisés pendant un voyage ou plusieurs voyages en Italie. Et dans le livret, on trouve donc des extraits de ce livre qui s'appelle Italia, tout simplement. Ouais. Donc ce sont de très belles aquarelles d'Emmanuel Guibert, faites en Italie.
Ouais. Ouais, très belles aquarelles et un texte passionnant qui accompagne l'écoute de cet album qui vient de paraître, La Bellezza, un programme que vous donnerez donc en concert le 9 mars à Paris, à la Piccola Scala. Merci beaucoup, Philippe Mouratoglou. On va se quitter avec quelques notes de Nuccio D'Angelo. Canzoni Lidie de Nuccio D'Angelo par Philippe Mouratoglou, un nouvel extrait de cet album La Bellezza, tout juste paru sous le label Vision Fugitive.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
On prend la direction de Barcelone avec
Exactement,
vous cette semaine.
Pour hâter la venue du printemps, oui, je vous propose de partir vers le sud et plus précisément, vous l'avez dit, à Barcelone et de faire étape dans l'extraordinaire, le fabuleux Palau de la Música. Alors cette salle, je le rappelle très vite, qui a été édifiée entre 1905 et 1908 et dont le décor exubérant n'en finit pas de surprendre et de séduire ceux qui la découvrent et ceux qui la connaissent. Sa profusion créatrice et l'incroyable effervescence de motifs et de matière résonne bien avec l'œuvre au programme ce 1er mars. Il s'agit en effet de la création, dit Schöpfung en allemand, de Joseph Haydn. Alors certes, l'époque où elle a été composée, à savoir entre 1796 et 1798 et sa géographie viennoise, n'ont rien à voir avec Barcelone au début du XXe siècle. Mais pourtant, il y a dans la partition une lumière, une émotion et une vitalité telle que je trouve que ce cadre lui sied parfaitement. Enfin, c'est mon sentiment. Rappelons que la création de Haydn se présente comme un oratorio où les chœurs tiennent une place fondamentale aux côtés des interventions solistes et d'un orchestre très figuratif et c'est un modèle qui a été inspiré au compositeur Joseph Haydn lors de ses séjours en Angleterre. Cette création, elle est divisée en trois grandes parties. Elle suit le cycle de la Genèse, chaque journée de la création de l'univers, de la lumière, des eaux et des êtres vivants étant ponctuée par une page chorale comme une apothéose qui marque la fin de chaque jour comme un fondement de cette création. Les voix solistes, ténor, soprano et baryton, se voient investies de rôles différents. Pour commencer, ils incarnent, même si je vais parler d'anges, d'archanges, le terme est un peu approprié, d'incarner, donc les anges Gabriel, Uriel et Raphaël, et après là, il s'agit bien d'incarnation, la soprano et le baryton deviennent Adam et Ève. Haydn a composé une partition aux sonorités très variées, du murmure méditatif aux éclats solaires et triomphants. Il y a vraiment fait œuvre de peintre, usant de toutes les ressources de sa palette, tendre, intime ou spectaculaire. On entend le chaos primitif, les gouttes de pluie, les oiseaux qui vocalisent, le lion qui rugit, parmi maints et maints autres exemples.
Alors Emmanuel, pouvez-vous nous en dire plus sur l'interprétation qu'entendra le public du Palau de la Música?
Oui, on peut imaginer que certains des auditeurs découvriront la remarquable chef Marta Gardolinska, chef polonaise, qui est bien connue en Lorraine, chez nous, puisqu'elle est la directrice musicale depuis quelques années de l'Opéra de Nancy. Elle est née en 1988 à Varsovie, pianiste, flûtiste de formation. Elle a beaucoup travaillé à Vienne, donc ses liens avec Haydn viennent sans doute de là, et elle possède vraiment un sens de la narration en musique si précieuse dans un ouvrage comme La Création qui fourmille de sensations, d'évocations de la nature et du monde vivant et puis aussi qui célèbre bien sûr la parole biblique. Quant aux forces musicales qu'elle dirigera, il s'agit du chœur des jeunes, ils ont de 16 à 25 ans, de l'Orfeo Catala et de côté instrumental, de l'Orchestre Symphonique de Barcelone et de Catalogne. Et puis bien entendu, les solistes sont tout aussi essentiels, en l'occurrence la soprano Jeanne Martinez, le ténor Jorge Navarro Colorado et le baryton José Antonio López. Et puis bien sûr, on va se quitter au son d'un des chœurs de la création, celui, si je ne me trompe pas, qui ponctue le troisième jour.
Yeah.
la fin du troisième jour de la création de Joseph Haydn dans l'enregistrement de René Jacobs avec le chœur et l'orchestre baroque de Fribourg. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage à Barcelone.
Merci, je crois que je vais y rester quelques jours.
Oui, voilà. On vous comprend. Mais vous revenez jeudi prochain pour notre escapade. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Katia et Marielle Labeck avec qui nous plongerons dans le monde absolument hypnotique de Philip Glass.
Ah oui.
Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.